Bonjour à tous, re-bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes donc toujours le 11 mai 2023, un peu plus tard dans la journée. Maintenant, il est temps de faire le point sur le marché suisse pour ces quelques premiers jours de la semaine, puisque je vais rater une bonne partie du jeudi et le vendredi. Mais on va quand même faire le point parce qu'il s'est quand même passé deux trois choses. Et c'est quand même bien de se poser 2 secondes sur une chaise pour discuter de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait encore éventuellement se passer ces prochains temps. Donc on fait le point sur le marché suisse, les graphiques, un peu tout partout, et ici et ailleurs. Alors, point de situation, eh bien, on verra après sur les graphiques. On n'a pas beaucoup bougé depuis la fin de la semaine dernière. Les marchés restent relativement bloqués dans des situations d'interrogation. Interrogation par rapport à l'inflation, interrogation par rapport à la récession, interrogation par rapport au plafond de la dette. Beaucoup d'interrogations, mais en même temps pas beaucoup de mouvements, hein. On sent que les gens, ils n'ont pas vraiment envie de prendre une décision. Ils aimeraient bien y voir un peu plus clair. Alors, on a eu pas mal de choses ces derniers temps qu'il fallait digérer. Il fallait digérer le message de la Fed qui, lui, veut continuer à garder une pause pour l'instant, ne veut pas donner de direction pour le prochain move sur les taux, mais laisse supposer qu'il n'y aura pas de baisse des taux avant la fin de l'année 2023. Les derniers chiffres qui nous sont tombés dessus, du CPI hier, on en a parlé ce matin, qui était surprenamment bon de nouveau, donc motivant pour la suite, mais en même temps avec un corollaire avec les chiffres des non-farm payrolls de vendredi dernier, qui eux étaient excellents, donc ce qui laisse supposer que vous avez une inflation qui a l'air de ralentir, pas dans tous les détails, on l'a vu tout à l'heure, mais surtout sur le fait que derrière vous avez aussi l'économie qui va très bien, et donc cette économie qui est relativement forte, l'emploi qui est relativement fort, va aider à tirer ou à tenir en tout cas cette inflation en vie. Alors pour l'instant, oui, l'inflation diminue, le CPI est en baisse, c'est une bonne nouvelle. Probablement que ce jeudi après-midi, on aura encore des chiffres qui vont laisser penser que le PPI devrait annoncer un nouveau CPI pour le mois prochain qui sera également plus faible. Mais la problématique, c'est que peut-être à un moment, ça va arrêter de baisser. C'est une des questions que l'on se pose aujourd'hui. On n'est plus en train de se demander si l'inflation est vaincue, on est en train de se demander si potentiellement à un moment donné ou à un autre, elle peut arrêter de baisser. Et ça pourrait être négatif, puisque je le rappelle quand même que la Fed a un target sur l'inflation à 2% pour la fin de l'année, dans le meilleur des cas. Et donc c'est clair qu'aujourd'hui, à 4,9%, on est encore loin du compte. Et si ça venait à s'arrêter de baisser parce qu'il y a d'autres courants, on va dire, force de l'économie, pétrole qui veut pas baisser, le prix des loyers qui ne revient pas non plus, tout ça pourrait faire que l'économie pourrait stagner autour de 4,9, 4,5%, et si ça se produisait, eh bien forcément, il n'y aurait pas de raison de baisser les taux non plus, ni de les monter, mais on resterait dans ce mode pause. Donc voilà, pour l'instant, on se pose pas mal de questions, on n'a pas beaucoup de réponses. Donc on vit vraiment un peu au jour le jour, et on l'a vu d'ailleurs sur les comportements des marchés, on a une vision extrêmement court-termiste. Ceux qui viennent me dire qu'ils font de l'investissement en long terme, je vous dis tout de suite, je n'y crois pas. On est vraiment bloqué sur cette direction. Qu'est-ce qu'ils vont dire demain? Qu'est-ce qu'ils vont dire après-demain? Et on trouve toujours quelque chose à dire derrière. Après, bien sûr, au-dessus de tout ça, eh bien, on a le plafond de la dette. Alors le plafond de la dette, comme je l'ai déjà dit cette semaine, il semblerait clairement qu'on va trouver une solution. Ça serait étonnant qu'on ne trouve pas de solution. On est déjà en train de parler qui montrerait de manière temporaire un plafond de la dette pour se laisser le temps de trouver une solution. Il est clair qu'il se déteste et que ce sera très très difficile de trouver une solution intelligente d'un côté comme de l'autre. Donc pour l'instant, ça risque de traîner encore un petit peu, mais la probabilité d'un défaut est relativement basse quand même. Néanmoins, quand on regarde le comportement du CDS, quand on regarde le comportement des rendements, des courbes de rendement à court terme, on voit clairement que les gens, ils n'ont pas trop envie d'être dans des bons du trésor à plus d'un mois parce qu'on n'a aucune visibilité et que ça fait encore pour l'instant un petit peu peur. Cette semaine, eh bien, les deux partis se sont rencontrés à la Maison Blanche, les démocrates et les républicains. Comme on l'avait dit dans le Morning Bull du jour d'après, on s'était rendu compte que même sur la communication de qu'est-ce qui s'est dit, ils étaient déjà pas d'accord entre eux. Donc autant vous dire que d'ici là, trouver un moyen d'augmenter la dette américaine, ce sera compliqué. Mais ce plafond de la dette stresse un petit peu les marchés quand même, puisque évidemment, pas besoin d'avoir fait des grandes études en économie pour comprendre que si par hasard on venait à avoir un défaut de la dette, comme le réclame Monsieur Trump depuis hier soir, eh bien à ce moment-là, on pourrait avoir un effondrement du dollar, mais aussi un effondrement du PIB américain. On parle d'une correction de 4% au minimum sur le PIB américain, ce qui mettrait inévitablement l'économie en récession. Alors vous me disiez, oui, bah si l'économie va en récession, bah tant mieux, ils ont qu'à baisser les taux, et puis c'est reparti comme en 40. Effectivement, ils ont qu'à, Il y a qu'à faucon, hein, c'est un peu la stratégie du moment. Il y a qu'à baisser les taux. Et puis après, on pourra repartir à la hausse. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais il y a pas mal d'interrogations. Après, il y a une chose qui est assez frappante aujourd'hui, c'est ce côté greed and fear, c'est-à-dire avidité et peur. Les gens n'ont plus peur et on a que du greed. Donc, on a peur de rater le mouvement à la hausse. Donc, le côté FOMO, hein, fear of missing out en anglais. Mais on a vraiment cette trouille de pas être dans le train si le nouveau bull market venait à se déclencher. Et on voit aussi, on l'a vu, on répétait plusieurs fois sur la volatilité est très basse, il n'y a rien qui veut la faire remonter pour l'instant, ce qui veut dire que le stress est très bas et que les gens ne sont pas du tout dans le mood de se dire protégeons-nous et soyons prudents pour la suite. Petit détour par les chiffres trimestriels, globalement ce qu'il faut retenir des chiffres trimestriels, c'est tout d'abord qu'il ne se passe pas grand chose, il y a eu des bons chiffres et des mauvais chiffres, ce qu'il faut retenir surtout c'est l'interprétation de ces derniers, puisqu'on l'a vu ces derniers jours, que ce qu'il faut faire surtout c'est être meilleur que les attentes, mais ça on sait que c'est facile parce que les attentes sont extrêmement basses, ensuite avoir une vision de l'avenir relativement positive, sinon la sanction sera terrible, on l'a vu sur Airbnb, on l'a vu sur PayPal, on voit que les gens sont extrêmement déçus à la moindre méfiance sur l'avenir, on n'a pas envie d'entendre ça, pourtant c'est un petit peu la réalité, mais c'est aussi comme ça qu'on voit que la sanction est effectuée au niveau des publications des chiffres trimestriels. On fait un détour par un des membres de la triplette magique, le patron de la BNS, qui a annoncé clairement hier que il était plus que probable que la politique de taux de la BNS n'était pas encore suffisamment restrictive, donc il fallait s'attendre à de nouvelles, en tout cas une nouvelle hausse de taux. Pour l'instant, l'inflation en Suisse est à 2,6%, ce qui est bien en dessus des targets fixés par la BNS qui se situent entre 0 et 2%. Alors forcément, quand on voit 2,6% puis qu'on dit « Ouh, au secours, faut monter les taux », eh bien, on plaint quand même ce qui se passe un peu chez nos voisins, parce que c'est pas vraiment la même situation. Néanmoins, monsieur Jordan a dit qu'il n'était pas exclu qu'il allait remonter les taux directeurs. Alors, on se réjouit de l'effet sur l'immobilier, parce que ça va faire swinguer pas mal les taux hypothécaires, évidemment, de l'autre côté, pour des raisons qui sont peut-être, en tout cas, questionnables à très court terme. Mais c'est la BNS, et on sait que la BNS a toujours raison. Et puis, on parle aussi un peu de la crise des banques ces derniers temps. Si vous regardez la performance du KRE, j'en parlais ce matin dans le Morning Bull Live, il y a de nouveau de la pression parce qu'on a peur que les banques régionales ne tiennent pas le coup. Et puis ce matin, vous voyez le CDS de l'UBS qui repart à la hausse, c'est le graphique qui s'affiche à l'instant. C'est pas non plus super rassurant, ça veut dire que le stress rejoint de nouveau les banques européennes, et ce qui voudrait dire que dans les jours qui viennent, on pourrait commencer à parler aussi du CDS de Deutsche Bank et de l'éventuelle problématique de la Deutsche Bank. Ou alors, à moins que ce soit, en ce qui concerne le CDS de l'UBS, l'annonce du fait que Monsieur Kohler, le patron du Crédit Suisse, va rejoindre le directoire de l'UBS pour aider à la fusion. Vu ce qu'il a fait du Crédit Suisse, on se demande pourquoi ils l'ont pas laissé dans la salle d'attente. Les performances du marché jusqu'à aujourd'hui, vous voyez le Bitcoin qui est à 4,64 de baisse, il s'est pris une squeeze un peu aujourd'hui, l'Asie qui est toujours un petit peu sous pression, et puis de l'autre côté, le pétrole qui a fait un magnifique rebond de 6,39% sur la semaine, puisqu'on a vu que les stocks pétroliers étaient largement en chute libre, puis qu'on s'approchait de la saison d'été et que les gens allaient devoir à un moment donné refaire le plein des réservoirs, et donc du coup ça a fait rebooster le pétrole, et le reste va plutôt pas mal. Dow Jones en hausse de 1,2%, le S&P 500 en hausse de 1,88%, le SOX de 1,90%, le Nasdaq de 2,84%, ça va plutôt pas mal, ça c'était merci aux chiffres du CPI d'hier. Et pour le reste, c'est plutôt calme. Et puis, on notera quand même surtout que les performances sont pas exceptionnelles. La Suisse, d'ailleurs, est carrément, en tout cas, à l'heure où je vous parle, on baisse de 0,08% sur la semaine. Même pas 0,07. D'ailleurs, puisque l'on parle de la Suisse, eh bien, nous avons Alcon qui est en hausse de 8,42% sur la semaine. L'UBS qui est numéro 2 avec 3,17 de hausse. Et puis, de l'autre côté, on a Lonza, suite à ses chiffres, de 58 de baisse. Geberit qui a été downgradé. Swisscom qui a été downgradé. Et Richemont qui publiera ses chiffres vendredi et qui pour l'instant marque un peu le pas. Richemont marque le pas parce qu'il faut quand même retenir qu'on a beaucoup parlé de cette semaine du fait que le rebond économique chinois n'était pas aussi rebondi que cela. Et c'est parti pour le point technique sur le SMI. Alors on l'a vu, ces derniers jours, c'était pas l'euphorie. On est de nouveau dans cette zone. Alors il y avait eu la cassure qu'on a fait sur les 11,450 que l'on voit ici, cette résistance-là. Et là, on est en train de se bagarrer. Hier soir, on a reclôturé en dessus. Aujourd'hui, on rouvre en dessus. Donc, on reste dans une situation assez touchy pour la Suisse pour l'instant. Mais ça a l'air de vouloir y aller pour l'instant. Donc, ça se passe pas trop mal du côté du SMI. mais c'est pas la semaine la plus explosive que l'on ait connue ces derniers temps. D'ailleurs, on voit également sur le CAC 40 que ça n'est pas simple. Alors, bon, pour l'instant, c'est plutôt positif parce qu'on vient aussi se reconstruire sur cette zone de support qui était une ancienne résistance à l'époque, hein. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour le CAC 40 qui a l'air de tenir ici. Mais on voit aussi que chaque fois qu'on tente un rebond, eh bien, on repart un peu plus bas. Donc il va falloir vraiment tenir cette zone-là sur l'indice français pour qu'on soit plutôt soulagé et espérer un retour à la hausse qui a l'air de vouloir se dessiner si on tient l'ancienne résistance qui est devenue support. Donc ce sera un petit peu l'interrogation. L'avantage, c'est qu'on est relativement bas sur les stochastiques pour l'instant. Et puis que les gens sont pas du tout négatifs, comme je vous l'ai dit. Au niveau du S&P 500, alors on a toujours notre range, hein. Ici, il n'y a pas grand-chose à ajouter de ce côté-là. On est dans un range. Il ne se passe quasiment rien du tout pour l'instant. Ça a l'air de bouger comme ça, mais pour l'instant, c'est très, très ténu. Chaque fois qu'on revient chercher la résistance au niveau des 4002 ici, on sent qu'il y a la faiblesse et ça veut pas y aller. Il va vraiment falloir à un moment donné un coup de boost, un signal de quelqu'un pour démarrer, mais pour l'instant on voit assez mal comment ça pourrait se produire. En revanche, voici le Nasdaq Composite, je vous l'avais montré cette semaine déjà. Alors le Nasdaq Composite, lui, il a cassé la résistance des 20% depuis les plus bas, hein, donc les plus bas depuis ici. Là on a fait 20% de haut jusque là et là on est en train de casser. Je vous l'avais fait tentative 1, tentative 2 et bah oui, pour l'instant on est en train de passer au travers. Il va falloir, si ça se confirme, le Nasdaq Composite, donc le gros Nasdaq qui contient 5000 titres, est donc en train de passer en mode bull market et ça c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant parce que c'est vraiment la tech qui va déterminer la suite du mouvement pour l'instant, parce que tout le monde se demande si finalement on va pouvoir continuer à monter. Est-ce que la tech sera toujours là? On l'a vu avec ces espérances de baisse des taux, comme je le mentionnais dans l'émission de ce matin. Cette baisse des taux pourrait potentiellement motiver la tech, mais la tech est déjà tellement montée que vous le voyez, par exemple le SOX ici, depuis le mois d'octobre, on était à 2109, on a quasiment à 3000. Donc on voit quand même que la hausse est phénoménale, mais il va falloir vérifier vraiment tout ce secteur-là pour voir si on arrive à suivre le mouvement ces prochains temps. Pour ce qui est du SOX, il faudra aller casser la résistance des 3120 pour pouvoir sortir de ce range et commencer à dire qu'on est reparti gentiment à la hausse. Mais pour l'instant, donc ce sera la grande clé à surveiller ces prochains temps. Est-ce que la tech peut continuer à tirer le marché à la hausse? Après son détachement de dividendes et après la publication de ses résultats, eh bien on a eu quelques upgrades sur Swissre. Swissre qui s'en sort relativement pas mal pour l'instant et qui a l'air d'essayer de reconstruire sa tendance haussière dans laquelle elle est depuis un moment. Donc c'était une relativement bonne semaine pour Swissre, pas l'euphorie, hein. Mais on sait bien que sur les titres suisses, c'est pas ce qu'on peut appeler des titres euphorisants en ce moment. Alors vous le voyez sur le graphique, hein, c'est en haut en bas, tu sais pas où tu vas, mais la tendance est quand même en train de s'amorcer un petit peu à la hausse. On a eu ce détachement de dividendes qui avait fait baisser le titre récemment et donc on repart gentiment à la hausse. Ça reste un dividend player pour l'instant. Donc on est au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours, il y a rien à dire. On va parler de Roche, bien entendu. Je vais vous lire le communiqué de presse parce que là, franchement, si je vous le cite de mémoire, ça va être très compliqué. Le régulateur sanitaire aux États-Unis va examiner une demande d'extension d'homologation pour le Vabysmo, ou autrement dit le Faricimab, nouveau moteur des ventes de Roche en ophtalmologie. Le traitement pourrait, le cas échéant, être prescrit contre l'occlusion veineuse rétinienne, l'OVR. L'OVR, en plus des autorisations déjà obtenues en janvier 2022 contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire, la DMLAN, comme vous le savez, ainsi que l'œdème maculaire diabétique, que l'on appelle couramment l'OMD. Donc voilà, c'est une nouvelle qu'il faudra surveiller parce que ça a la capacité de pouvoir redonner peut-être un petit coup de fouet, le coup de fouet qu'on attend à Roche ces prochains temps. Rien n'est gagné, bien sûr, mais c'est quelque chose qui pourrait devenir quelque chose de préoccupant ces prochaines semaines en fonction de ce que nous annoncera la FDA. Comme vous le voyez sur le graphique, le bon Roche est toujours dans sa tendance haussière, même si ça n'a pas été la meilleure semaine ces derniers temps. Mais on continue à construire gentiment, donc à suivre avec ces histoires d'autorisation qui peut-être nous pourront nous donner la puissance d'aller chercher un peu plus haut. Je la verrais plutôt venir peut-être sur les bas 273 avant de redéclencher un mouvement quelconque à la hausse. Autrement, chez Lonza, ils ont publié des chiffres qui correspondaient plutôt à la performance attendue sur le trimestre. Ça a été moyennement bien pris, parce que vous le verrez sur le graphique, le titre termine pas une semaine des plus sexy, mais bah, globalement les chiffres étaient bons. Ils ont pas donné beaucoup d'indications pour l'avenir, ce qui fait que les gens se posent peut-être des questions au niveau de Lonza. Alors n'oublions pas néanmoins le fait que Lonza a quand même créé sa Golden Cross récemment, que la publication des résultats ont enchaîné une petite baisse, mais que globalement, si on observe tranquillement le titre, on est quand même gentiment dans une belle tendance haussière pour l'instant, et qu'en la faisant revenir sur la moyenne mobile des 50 jours autour des 556, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer sur Lonza ces prochains jours. Résultat toujours chez Alcon cette fois. Grosso modo, ils ont surpris tout le monde avec une croissance assez spectaculaire sur les trois premiers mois de l'année. Donc bonne surprise, plutôt encourageant sur la suite. Donc c'est exactement ce que l'on a besoin pour voir un titre monter et s'enthousiasmer un petit peu pour l'avenir. Et lorsqu'on regarde le graphique, eh bien ça se passe de commentaires. Hein. On voit très clairement que la nouvelle a fait plaisir au marché. C'est pas tous les jours qu'on voit ça sur le marché suisse, un brutal cassure à la hausse, 7 balles de hausse, quasiment 10% de mouvement haussier pour aller chercher les 80-64. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose qui semble vouloir nous retenir. Et puis pour ceux qui sont passionnés d'analyse technique, comme d'habitude, on peut toujours trouver notre bon vieux head and shoulder inversé. Vous avez la tête ici, vous avez une épaule là, vous avez une épaule OK qui est un peu luxée ici. Mais l'un dans l'autre, ça voudrait dire que si on arrive à vraiment casser cette zone-là, chose qui est faite, en tout cas depuis quelques jours, eh bien l'inversion de tendance pourrait nous faire monter quasiment de 70, de là où on est à 80, facilement d'une dizaine de francs encore, donc assez spectaculaire, non seulement sur le terme fondamental, mais en plus du côté graphique. Sonova, je vous en parle, je vous montre le graphique, parce que Sonova va publier ses chiffres la semaine prochaine, donc ça il faudra garder à l'œil, parce que franchement, il y a eu 2-3 downgrades, 2-3 ajustements de position, mais ça on va pas trop se prendre la tête. Vous savez, le terme ajustement de position, c'est le truc qui veut rien dire. On a un croisement de moyenne mobile ici, 250 jours. On est sorti du canal haussier une fois, on est revenu le tester, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Je suis pas un monstre fan de vouloir jouer les chiffres, mais si ça va dans la bonne direction, je serais pas surpris qu'on voit une nouvelle accélération à la hausse sur Sonova. Donc je serais presque tenter de vouloir me positionner long pour jouer les chiffres de Sonova, et autant vous dire que quand j'ai envie de faire ce genre de choses, c'est quand même pas toutes les semaines, parce que je déteste jouer à pile ou face encore plus que d'habitude. Et puis, petit détour sur Meyer Burger pour terminer, puisque Meyer Burger a annoncé le lancement d'un emprunt convertible sur sa filiale en Allemagne, donc qui a moyennement plu au marché, bien évidemment, puisque c'est un peu dilutif pour le capital. Néanmoins, pour ceux qui sont des fans de l'investissement ESG et pour jouer à la thématique du solaire, le retour sur la moyenne mobile des 200 jours est plutôt intéressant. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on est venu tester cette zone-là, ou encore cette zone-là, derrière, on a déclenché des mouvements assez positifs à la hausse. Donc, pour ceux qui ont un peu envie de faire de la spéculation sur cette thématique-là, peut-être qu'il y a un truc à observer sur Meyer Burger. On termine avec les chiffres de la semaine à venir. Alors, pas grand monde, hein. On surveillera évidemment Sonova, comme je vous l'ai dit, pour les plus courageux. Et puis, Zurich Assurance publiera ses résultats. On devrait avoir des bons chiffres, si on en croit, en tout cas, ce qu'on a déjà vu sur les assurances comme Swiss Re ou comme Swiss Life. Donc, surveillance de ces résultats la semaine prochaine. On va continuer à regarder les chiffres économique un peu partout, et puis c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à déterminer une direction. Mais franchement, je vois assez mal comment on va réussir à casser les 4200 sur le S&P et à donner une impulsion à ce marché, une direction. La seule chose qui me rassure pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup d'argent sur le titre, des milliards et des milliards qui sont de côté en attendant d'être investis dans le marché des actions. Donc si vous voulez dire qu'à la moindre faiblesse, on devrait voir arriver des acheteurs. Mais pour ce qui est du reste, franchement, j'ai de la peine à imaginer des catalystes immédiatement, puisque tous les chiffres qui sortent pour l'instant sont soit positifs, soit négatifs, mais à l'intérieur, on trouve de toute façon l'opposé. Donc c'est très difficile de prendre une direction et de réussir à se positionner sur le moyen long terme. D'ailleurs, on le voit très bien, hein, comme je le disais en accroche de l'émission, les gens ne veulent plus faire de l'investissement long terme. Pour l'instant, c'est du trading, c'est du court terme, parce qu'on n'a aucune visibilité, et surtout d'autant plus que pour l'instant, on va être très très concentré par la thématique du plafond de la dette, puisque ça est devenu l'obsession du moment. Voilà, merci d'avoir été avec moi pour ce Swiss Bliss un peu plus tôt dans la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Moi, je reviens comme d'habitude lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, bonne fin de semaine, bon week-end. Que la force soit avec vous et à lundi. Bye bye.